Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Aujourd'hui, il n'y a pas de renseignements harmonisés sur le plan européen. Moi, je pense qu'il faut aller jusque-là. Ça veut donc dire que nous devons, c'est ma conviction, mettre en place le plus vite possible une agence européenne du renseignement. Une cellule européenne, je l'ai dit, c'est les mots que j'ai utilisés.
Voilà, c'était Charles Michel, l'actuel Premier ministre belge. Quelques jours tout juste après le 13 novembre chez nos confrères de RTL, il se prononçait alors pour la création d'une agence européenne de renseignement, une nouvelle structure, une idée qui est soutenue par d'autres poids lourds de l'Europe, Dimitris Avramopoulos, qui est commissaire européen chargé des affaires intérieures, ou Viviane Reding, qu'on connaît, ancienne vice-présidente de la Commission, mais une idée, nous le verrons, que ne soutient pas la France, en tout cas pas encore. Les attentats de ce matin à Bruxelles pourraient changer la donne, mais dans un contexte de défiance des populations à l'égard de l'Europe, l'idée d'une agence européenne, d'un renforcement de la coopération, même si c'est au nom de la sécurité, paraît difficile. Alors faut-il une CIA européenne ? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, deux invités à mes côtés en studio, Antoine Mégy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, spécialiste des politiques européennes antiterroristes. Et puis par téléphone, Louis Caprioli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la direction de la surveillance du territoire, la DST, spécialiste des réseaux fondamentalistes musulmans, et vous êtes aujourd'hui conseiller spécial chez Géos. Alors Antoine Mégy, je voudrais vous poser une question assez simple, qu'on a d'ailleurs entendue aujourd'hui après ce qui s'est passé à Bruxelles. Est-ce qu'il y a un déficit d'échange d'informations au niveau européen dans le renseignement ?
Alors, c'est une question qui est assez compliquée, puisque effectivement, les renseignements circulent aujourd'hui entre les autorités européennes, puisqu'on a déjà des institutions, alors pas une CIA européenne, comme on l'entendait dans votre témoignage, mais plutôt un FBI européen, c'était le terme qui avait été utilisé à la fin des années 80 par Helmut Kohl, et qui avait donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui Europol. Or, Europol, depuis sa création, donc au début des années 90, s'est spécialisé justement dans la question du renseignement criminel, mais aussi renseignement dans la lutte antiterroriste, notamment après 2001. Et on a ainsi des bases de données européennes qui existent déjà. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que ce FBI Europol européen peut aujourd'hui justement gérer l'ensemble de ces questions ? Est-ce qu'il est nécessaire finalement, comme souvent l'Europe peut le faire, de créer encore une nouvelle structure ?
Alors peut-être première réaction à Louis Caprioli, vous venez d'entendre ce qu'a dit Antoine Mégy. Alors est-ce que vous pensez que les échanges de renseignements sont suffisants ou vous pensez qu'ils sont insuffisants et qu'il faut créer une nouvelle structure à l'échelle européenne ?
Alors je suis totalement opposé à une nouvelle structure européenne. Voilà, je réponds à votre question. Maintenant je réponds sur Europol. Europol s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme en 2001, c'est un échec. Voilà, je ne vois pas Europol faire de la lutte contre le terrorisme. La preuve en est, c'est que depuis 2001 jusqu'à 2015, il n'y a eu aucun apport d'Europol dans la lutte contre le terrorisme. Il faut être très sérieux de ce côté-là. On peut pas. Et moi, j'ai participé en 2001, 2002, 2003, 2004 à des discussions avec Europol, ça n'a jamais abouti. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mélange. Ce sont d'abord des policiers, ce ne sont pas des services de sécurité et de renseignement intérieur. Donc il faut bien mesurer. Donc Europol a reçu des informations, mais Europol n'a jamais été capable de communiquer des renseignements pour une raison très simple, c'est que les renseignements viennent des services. Donc si vous voulez, je ne vois pas, il n'y a pas un apport. Alors d'autre part, il existe entre tous les services de sécurité dans le monde, occidentaux, depuis l'Australie et tout ça, des échanges historiques et des bases, et d'ailleurs des échanges permanents et des réunions annuelles, trimestrielles, mensuelles qui sont organisées en fonction, c'est-à-dire des thèmes et des menaces. Donc tout ça, c'est une réalité. Simplement, ce qu'il faut, je pense, c'est passer à une vitesse supérieure et créer une structure informelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'autorisation du Parlement européen, on n'a pas besoin d'autorisation de la Commission européenne. Il y a des structures qui ont existé en 2002, de 2002 à 2006. Il y a eu une base qui s'appelle l'Alliance Base, qui a été créée secrètement en 2002. Elle a été initiée par la CIA, la DST et la DGSE, et des gens se sont installés, des gens de tous les services occidentaux se sont installés à Paris pour échanger de l'information. Les gens étaient basés à Paris, et dans des locaux. Voilà.
Et cette alliance basse a été fermée, je crois, en 2010. Antoine Mégy, je vous vois avoir envie de réagir. Une structure informelle de ce type-là, c'est une bonne solution ?
Alors, déjà, pour aller dans le sens de M. Caprioli, effectivement, Europol montre ses limites pratiques, ne serait-ce que parce que, finalement, la question du renseignement, c'est aussi la question de la confiance. Et que Europol est une structure verticale, et que, comme l'a souligné M. Caprioli, la coopération en matière de renseignement se fait dans une logique horizontale, bilatérale, avec des histoires particulières entre les services de renseignement, et que cette coopération horizontale est très importante. Et c'est dans ce sens-là que reconstruire une autre structure poserait là aussi le problème de l'utilisation par les services de renseignement et de leur confiance. Alors ensuite, est-ce que la solution, c'est de créer quelque chose d'informel ? Le problème de l'Alliance Base, c'est que on a créé cette logique informel de coopération qui a certainement bien fonctionné, mais qui a posé aussi des problèmes de contrôle par rapport aux États et à l'État de droit. Donc est-ce que les renseignements ne peuvent pas coopérer en respectant justement des règles, tout en étant bien évidemment dans une logique à la fois de transparence, mais bien sûr parce que le travail le nécessite, dans une logique d'informalité et de secret. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si Europol a échoué à permettre une vraie coopération entre les services, c'est parce que les services de renseignement européens n'ont pas besoin d'Europol pour coopérer. Est-ce que si on crée une nouvelle structure, ils auront encore besoin de cette nouvelle structure ? Et là, on pose vraiment la question de la confiance. Est-ce qu'on peut partager ces renseignements avec l'ensemble des États, sachant que chaque État membre va avoir ses propres stratégies ?
Donc ce que vous dites, c'est qu'il existe déjà toutes les structures pour avoir une agence de renseignement européen, mais qu'au fond, ce sont les États, les renseignements, qui ne sont pas de nature à coopérer tous ensemble, parce que c'est contre nature par rapport à leur mission, c'est ça ?
On peut coopérer sur des questions précises, mais est-ce que mettre en place un système de coopération permanent peut fonctionner ? On l'a vu dans l'Alliance Base, qui était un système informel avec un problème de contrôle, mais en tout cas, on avait une coopération de type informel et ponctuelle. Vous l'avez souligné, son temps de vie a été assez réduit. Maintenant, la question d'avoir des grandes bases de données qui démultiplieraient déjà ce que fait Europol, M. Caprioli l'a souligné, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça pose encore un souci de superposition des dispositifs et de cohérence.
Louis Caprioli, est-ce que vous pensez on peut plus échanger des renseignements et que c'est dans la nature des services de renseignement que de coopérer ?
Ben oui, parce que si vous voulez, les échanges bilatéraux vont très loin, puisque ce sont des traitements de recrutement, des manipulations d'informateurs ensemble. Mais on va même au-delà. On va même au-delà du bilatéral, on va au trilatéral, quadrilatéral. Et donc, si vous voulez, l'Alliance Base a disparu parce qu'elle a, s'est sortie dans la presse. Mais je crois que si nous attendons que des textes soient votés, tout ça, on va se planter. Je crois que l'urgence fait qu'il est nécessaire de regrouper des gens issus des différents services avec des computers pour avoir des échanges d'informations en direct. Pour avoir des échanges d'informations sur les opérations en cours, sur le recrutement, le traitement des sources, parce que, et que les Américains, que les Anglais, que les Français mettent à la disposition des petits pays les informations. Parce que qu'est-ce que l'on constate ? Qu'est-ce qui demande un FBI ? Qu'est-ce qui demande une CIA ? Ben, ce sont les petits pays, parce qu'ils n'ont pas les capacités. Et donc, comment ils n'ont pas les capacités ? Ils se tournent vers les grands qui sont réservés sur la communication d'informations. Donc je crois que autant le bilatéral est très productif parce qu'effectivement on connaît son interlocuteur et que le multilatéral est inquiétant. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut cette instance informelle. Et j'insiste parce qu'il n'y aura pas d'autres structures qui pourront être mises en place. Alors je veux bien entendre le contrôle, tout ça, mais je peux vous dire que pendant ces 5 périodes, il n'y a rien d'illégal qui a été commis. Hein, voilà, ça c'est mon sentiment et je l'ai vécu. Donc si on veut réellement qu'il y ait des échanges qui soient en temps réel, qu'on connaisse les opérations qui ont lieu en Belgique. Si vous voulez, c'est par exemple, les Belges avaient communiqué toutes les informations sur les familles Salah Abdeslam. Ce qu'on aurait pu faire, non seulement, bien sûr, les contrôles, quand il s'est déplacé, mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des surveillances, des contrôles de tous ces individus. Alors, bien sûr, on sait qu'ils sont allés en Grèce, qu'ils sont allés en Hongrie, qu'ils sont allés en Autriche, mais qu'est-ce que ça apporte ?
Alors je crois que là-dessus, vous avez un point de convergence avec Antoine Mégy. On revient à la collecte d'informations. Et pour vous, ce qui est fondamental finalement dans le renseignement et qui manque aujourd'hui, c'est le renseignement humain, c'est ça ?
Alors effectivement, on a une tendance, notamment sous l'effet de l'européanisation, mais également de l'internationalisation de la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001, on a une tendance très lourde dans la transformation des services de sécurité, c'est qu'on a favorisé la surveillance technologique et le recueil massif de données, notamment avec les fameuses bases de données et les surveillances qui se démultiplient, hein, notamment dans le cadre européen, puisqu'on a des superpositions de bases de données, à la fois pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour la lutte contre l'immigration clandestine, qui a pu permettre d'arrêter quelques suspects, finalement, en Autriche, notamment. Donc, c'est aussi un choix qui a été fait, un choix technologique, et qui s'est fait presque au détriment d'une autre façon, là, peut-être que M. Caprioli est plus spécialisé là-dessus, mais d'une autre manière justement que le renseignement humain. Donc ça pose un problème des choix stratégiques qui sont utilisés, et ça pose encore le problème de la coopération européenne qui souvent passe avant tout par une surveillance massive où effectivement on connaît les trajectoires géographiques mais aussi financières des uns et des autres, mais on ne sait pas quand ils décident de basculer. Et c'est là où le renseignement humain est très important.
Faut-il une agence européenne de renseignement ? C'est donc le débat de ce soir avec nos deux invités, Antoine Mégy, Louis Caprioli. Louis Caprioli, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez favorable à la création d'une structure informelle. Alors au-delà du problème du contrôle qu'on a déjà souligné, est-ce que ça ne serait pas une strate de plus alors qu'il y a déjà beaucoup de strates et beaucoup d'institutions qui existent de partage de ces données ?
Non, parce que les gens seraient réunis dans des locaux où ils travailleraient tous ensemble dans un open space, si vous voulez, là où il n'y a pas de hiérarchie. Chacun communiquerait les informations qu'il a reçues en direct et communiquerait les informations qu'il a aux différents partenaires, et on n'aurait pas une hiérarchie supplémentaire. Si vous
Mais est-ce ça. Que ça, c'est pas contraire à la nature même du renseignement qui veut qu'on est dans le secret, qu'on espionne ses ennemis, alors, mais aussi ses amis?
Alors, je vais vous dire une chose. Si on considère qu'on est toujours dans l'espionnage, ben c'est pas la peine, on va pas collaborer. Dans la lutte contre le terrorisme, là, il faut que l'on partage. Parce que la finalité du recueil de renseignements, qu'il soit humain, qu'il soit technique, c'est son exploitation. Je veux dire que si, autant moi qui ai travaillé dans la lutte contre l'espionnage soviétique, il fallait qu'on recueille des informations et puis après on verra, autant moi pendant 21 ans j'étais sur le terrorisme, si vous voulez, quand vous avez des informations, quand vous pouvez protéger votre source, l'objectif, et même si vous ne pouvez pas protéger votre source, l'objectif c'est d'empêcher les attentats et de neutraliser les réseaux terroristes, au sacrifice d'une source humaine si c'est nécessaire, parce que c'est ça qui est plus important. Donc je crois que, quels que soient les pays dans le monde, il faut bien comprendre maintenant que le passage, c'est-à-dire d'informations, ça doit être exploité. Alors bien sûr, on doit encadrer cette exploitation pour éviter qu'on carbonise toutes les sources et des choses comme ça. Et ce que je disais, le renseignement, effectivement, vous avez raison de dire que le renseignement technique, tout d'un coup, on a pensé que c'était, j'allais dire, le Graal et qu'on allait avoir des renseignements. Mais les gens ne sont pas stupides, ils ont parfaitement compris qu'on les écoute, qu'on met des caméras, qu'on pénètre dans leur masse. Donc, et par expérience, je sais que le renseignement humain, ça vous évite de lourdes filatures, ça vous évite d'arriver dans des cités et de vous faire, j'allais dire, identifier par des petits dealers qui pensent que vous êtes de la PJ ou de la lutte, et puis de signaler ça aux grands frères djihadistes. Donc on a besoin d'avoir des informateurs. Et les informateurs, on va les recruter comment ? Il faut qu'il y ait ce quadrillage de terrain de toutes les cités, de tous les endroits.
Mais qu'on revienne aux vieilles méthodes, finalement, celles qui ont été utilisées pendant des années, y compris en France.
Mais si vous voulez, le service de renseignement, les services de sécurité intérieure de renseignement, si c'est pour faire des enquêtes de domicile, bah, il se plante complètement. Sa mission, c'est de recueillir des informations, des sources, d'avoir des contacts ouverts, d'avoir des contacts fermés. Et c'est ça qui manque, je crois. Si vous voulez, on s'est laissé bouffer par les enquêtes, on s'est laissé bouffer par, justement, les facturations détaillées. Vous savez que maintenant...
Par le traitement vous êtes... aussi de multiples données. Antoine Mégy, peut-être juste une réaction à ce que nous disait Louis Caprioli il y a quelques minutes, qui disait qu'il nous faut un open space où on communique plus directement, plus simplement. Mais il y a quand même beaucoup de structures qui existent. Alors, on a parlé en première partie d'émission d'Europol, mais il y a aussi le centre satellitaire de l'Union européenne, le système d'information Schengen. Il existe des outils juridiques comme le mandat d'arrêt européen. Comment tout ça s'articule ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas mieux ?
Alors, on veut toujours que ça fonctionne mieux. Il y a aussi l'idée que l'efficacité ici, elle est nécessaire, parce que si l'efficacité n'est pas au rendez-vous, on a des morts. Donc, on est à une exigence absolue. Le problème, c'est qu'on peut répéter que le risque zéro n'existe pas. Lorsqu'il y a l'attentat, on remet en cause le système de sécurité. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des structures. Est-ce que si ces structures marchent mieux, on arrêtera quand même les attentats? Je suis pas devin et je peux pas y répondre. Mais on voit qu'il y a une réalité pratique qui se confronte à cette volonté politique de discours sur la CIA européenne, etc. La réalité pratique, c'est ce qu'explique Monsieur Caprioli quand il dit il faut des open space. Effectivement, les open space vont permettre une socialisation entre les services de renseignement qui vont coopérer et s'échanger les informations. Mais derrière ces échanges d'informations, il y a des stratégies étatiques qui, même si elles sont tournées vers le contre-terrorisme, vers un ennemi plus ou moins commun, ne sont pas forcément les mêmes.
Exemple.
Un exemple tout bête, quand on voit ce qui s'est passé par exemple en Europe dans les années autour du Londonistan. Alors effectivement, aujourd'hui, les autorités britanniques ont complètement changé leur politique. Mais quand dans les années 90, en France, on cible des réseaux issus du GIA, etc., et je pense que M. Caprioli connaît bien ces histoires, on voit qu'en même temps, l'Angleterre, pour des raisons de sécurité nationale, préfère laisser finalement ces réseaux radicaux extrêmes, violents, rester à Londres pour qu'elles puissent les maîtriser. Alors maintenant, cette situation a changé. Mais on peut avoir, à un moment donné, des intérêts nationaux qui font que, même si on s'échange l'information, la convergence d'action ne va pas être la même. Et c'est là où le diplomatique, et c'est là où le niveau politique prend le pas, et on peut créer des alliance base qui posent encore une fois des questions. L'alliance base a quand même été, d'après les rapports, à l'origine de ce qu'on va appeler les assassinats ciblés ou des enlèvements. Partir de là, on a aussi une réalité de stratégie d'État qui peut parfois ne pas aller dans le même sens.
Alors, Louis Caprioli, votre réaction sur cette notion de différence entre des stratégies étatiques, est-ce que c'est pas là le problème principal aujourd'hui?
Alors écoutez-moi, dans la lutte contre le terrorisme, je ne crois pas qu'il y ait de différence de stratégie. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le passé. Et là, le passé, il date de 20 ans. Donc il y a 20 ans, il y avait peut-être des stratégies londonistan, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça a disparu. Hein. Le 11 septembre, ça a bousculé tout ça. Donc moi je n'y crois pas. D'autre part, je veux vous dire, il n'y a jamais eu de torture dans le cadre d'Alliance Base. Hein. Alors là, je me garantis que c'est complètement faux. Il y a eu simplement des échanges d'informations sur des individus et des traitements de sources sur des individus qui communiquaient des informations pour qu'on empêche des attentats. Voilà, c'est une réalité.
Ne refaisons pas le débat sur l'Alliance Base qui n'existe plus, mais sur ces différences de stratégie, vous vous dites aujourd'hui, il y a convergence, on a tous les mêmes intérêts, donc ça ne poserait pas problème.
Oui, c'est vrai. Je veux dire que autant je peux comprendre que il existe de l'espionnage scientifique, il existe de l'espionnage. C'est une réalité, c'est vrai. D'ailleurs, les Américains s'en sont fait les maîtres avec leur système d'écoute. Et donc ça, c'est un élément. Eux-mêmes, avec une tentative de recrutement de sources humaines en France, hein, puisqu'on a déjà foutu à la porte certains chefs officiers de la CIA dans le passé. Donc c'est une réalité. Mais dans la lutte contre le terrorisme, je suis beaucoup plus réservé. Je crois que là, il y a une nécessité de s'ouvrir et d'échanger. Si vous voulez, quand on arrête des terroristes en France, en Belgique, en Allemagne, tout ça, ça ne porte pas préjudice, j'allais dire, aux stratégies de l'Angleterre, ainsi de suite.
Alors je crois qu'Antoine Mégy veut vous répondre.
Et effectivement, je pense qu'il y a une convergence sur le discours et sur l'objectif d'arrêter les terroristes. Ensuite, il y a aussi une hiérarchisation des priorités. On peut évoquer les rapports qui ont été publiés récemment, notamment par le journal Le Monde, sur la stratégie américaine par rapport à des sources présentes, alors cette fois non pas en Europe mais en Syrie, et sur l'utilisation de ces sources au sein des groupes rebelles syriens, notamment vis-à-vis de Daesh. Ce qui nous montre que on a vu une utilisation extrêmement périphérique de ces sources alors qu'elles apparaissaient centrales pour d'autres services. Donc on peut avoir des convergences sur le discours et la lutte.
On n'analyse pas tous mais le même renseignement de la même manière, c'est ce que vous essayez de nous dire.
On a des hiérarchies qui parfois peuvent être différentes et qui peuvent poser des problèmes en termes d'action ou de convergence d'action.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à nos deux invités, Antoine Mégy, que vous venez d'entendre, maître de conférence à l'Université de Rouen, spécialiste des politiques européennes antiterroristes, Louis Caprioli, qui est avec nous par téléphone, ancien sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la direction de la surveillance du territoire, la DST. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial chez Géos. Merci à Florence Poncet et Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau débat en matière de terrorisme. La presse doit-elle